Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro de la 67e émission d'Au fil du temps, que vous nous écoutiez en direct à Canal M ou à CKVL, ou encore en différé sur une plateforme de balado-diffusion. Avec ces 67 émissions, je laisse de plus en plus de traces numériques de mon passage sur Terre. Je me rends de plus en plus immortel. Et mes arrière-petits-enfants, si j'en ai, pourront savoir de quel bois se chauffait leur mamie. En ce mois de novembre, mois des morts, je me suis intéressée aux souvenirs et aux deuils numériques. J'ai découvert un phénomène appelé « life logging » qui consiste à enregistrer et archiver toutes nos informations, faits et gestes et interactions avec d'autres personnes. C'est comme un mélange de journal intime numérique, de chaîne YouTube personnelle où on peut réécouter nos conversations et une compilation de données un peu associée au phénomène de « quantify yourself ». J'ai aussi appris avec stupéfaction que chaque jour, 1 million de personnes interagissent avec des profils Facebook de personnes décédées. 1 million de gens qui regardent des photos de personnes disparues, qui laissent des messages aux proches sur des pages commémoratives, qui, voire même, écrivent à la personne décédée pour se réconforter, garder un lien. Imaginez si la personne décédée avait fait du life logging et s'était créé un avatar post-mortem, un personnage qui lui ressemble dans lequel son esprit aurait été téléchargé. Bon, ça vous semble peut-être de la science-fiction tout ça, mais pourtant c'est beaucoup plus près qu'on peut le penser. Vous avez peut-être vu cette semaine le changement de nom de Facebook en Meta, un nom qui signifie « au-delà » en grec. Le métavers, français de « méta-univers », crée un monde où l'on peut interagir, travailler ou se divertir via des lunettes de réalité augmentée et casques de réalité virtuelle. Nous pourrons donc ainsi habiller notre avatar virtuel d'une tenue chic, grâce à des suggestions qui nous seront bien sûr faites en ligne, nous rendre dans un bar branché avec nos amis représentés sous forme d'hologrammes. Mais imaginez si on poussait l'idée plus loin. Si vous pouviez retrouver des proches décédés avec qui poursuivre la conversation. Alors, curieuse de tout ce phénomène, j'ai souhaité en discuter avec Nadia Serayoko, chargée de cours et chroniqueuse techno que nous avons reçue le 21 septembre pour parler de TikTok. C'est un phénomène TikTok qui attire de plus en plus de jeunes et de moins jeunes. Et parlant de jeunes, cette génération dite mobile a besoin d'être orientée de manière différente qu'avant parce que leur utilisation de la technologie a un impact sur leur façon de communiquer. Nous discutons en deuxième partie avec Jérémy Lapierre, consultant, conférencier et formateur. C'est donc notre programme pour cette 60e émission qu'on lance avec « Monde virtuel » de Mathieu Chédid, dit M.
Comment faire, comment lui dire, comment lui faire voir ma planète artificielle? Mais comment faire, comment lui dire, comment lui faire croire que je changerai le bleu du ciel? Je vis dans un monde virtuel. Je sais bien que tu finiras par te détendre, toi qui préfères les pieds sur terre. Mais je ne sais pas si tu finiras par te détendre. Dans ta tête, c'est la fête des nerfs. Moi qui vis dans un monde virtuel. Moi qui vis dans un monde. Exploratrice de la troisième dimension.
pas peur si je me glisse dans votre imagination. Votre imagination. Votre imagination.
C'était Monde virtuel de M. Mathieu Chédid. On y parle des explorateurs de la troisième dimension. Abordons le phénomène des souvenirs et du deuil numérique avec Nadia Serrayoko, chargée de cours à l'UQAM et chroniqueuse techno, que nous avons eu le plaisir de recevoir le 21 septembre dernier pour parler du réseau social TikTok. Bonjour Nadia.
Bonjour Chantal.
Là, j'ai envie de parler un petit peu de Facebook ou plutôt de Meta.
Un autre endroit où peut-être qu'après notre décès, nos données pourront continuer à animer une présence en ligne hein, dans un monde virtuel. Ce qu'on nous propose en ce moment, là, si on dit quelques mots sur Meta, c'est un monde virtuel, donc une dimension physique où on serait incarné dans un avatar et dans lequel on pourrait consommer grâce à une monnaie finalement qui est commune à ce réseau-là. Un peu comme Second Life, si on veut, mais refait par Facebook et avec le nom Meta.
Ben effectivement, quand j'ai vu la présentation de Mark Zuckerberg, une longue présentation cette semaine, c'est Second Life qui m'est venu en tête, mais là, je me disais justement avec les données de Facebook.
Oui, avec en fait les quelques... On dit à peu près plus de 3 milliards hein, de personnes datarifiées dans le réseau parce que ils ont l'application WhatsApp, ils ont Instagram. Fait que donc, les gens n'ont pas tous un compte sur Facebook, mais il y en a qui ont seulement un compte WhatsApp ou encore seulement un compte Instagram. Donc, ils disent qu'ils rejoignent près de 3,5 milliards de personnes finalement avec leurs différentes possessions web dans leur portfolio, là, si on veut comme un peu exprimer ça autrement.
J'ai lu qu'en 2050, il y aurait presque autant de profils de gens décédés en ligne que de gens vivants. C'est fou.
Oui, c'est fou et ça fait un bout hein, qu'on s'inquiète un peu de ce phénomène-là parce que chez Facebook, déjà 5 ou 6 ans après l'ouverture du réseau hein, qui a débuté en 2004, on s'est aperçu qu'on commençait à voir vraiment, hein, littéralement, c'était pas loin de millions de personnes qui étaient plus actives ou qui étaient carrément décédées, dont le profil restait là. Et on était proche d'un million à cette époque-là. Mm. Et ce qu'on a compris, c'est que ça causait un problème dans le social parce que vous savez que dans la vie dans la société occidentale, on sépare les morts des vivants. Hein. Il y a des cimetières pour les morts. Il y a des endroits même, hein, des hôpitaux spécialisés, etc. Quand on est en fin de vie, on a des rituels, puis on les suit. Mais là, quand tout d'un coup, vous arrivez sur Facebook et que vous vous butez sur le profil d'une personne que vous connaissez qui est décédée quelques mois auparavant, ça cause une rupture hein, dans le social, ça cause quelque chose qui nous perturbe. Puis surtout, si on reçoit des notifications de ce profil-là en disant « Hey, ça fait longtemps que vous n'avez pas engagé la conversation avec
X. » Que c'est son anniversaire aujourd'hui.
Exactement. Et là, Facebook s'est dit « OK, il faut régler ça. » Donc, ils avaient parlé à l'époque même avec des chercheurs aux États-Unis, comme un certain monsieur Brubaker, qui leur avait dit « Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose pour ça. » Donc, ils ont à ce moment-là créé un algorithme qui permettait quand quelqu'un l'activité arrêtait, puis qu'il y avait une certaine activité qui disait que quelqu'un semblait être décédé, pour que ce profil-là au moins cesse d'envoyer des notifications. Et graduellement, on en est arrivé à proposer, ça c'est en 2009 que ça s'est arrivé, une façon de rendre un profil commémoratif, c'est-à-dire de faire une demande en présentant, par exemple, un avis de décès, en disant ben, cette personne-là, donc, on aimerait que son profil soit rendu commémoratif ou désactivé. Ça ne veut pas dire quand vous désactivez que les données sont plus là. Ça veut juste dire que le profil n'apparaît plus hein, au commun des mortels, tiens, disons-le comme ça. C'est ce qui est arrivé. Et là, ça en est suivi hein, toute une série de plaisanteries où tout le monde n'arrêtait pas d'envoyer de faux avis de décès de Mark Zuckerberg pour faire des notifications pour son profil. Mais donc, on a compris très vite hein, que les gens pouvaient faire ça. Et maintenant, on semble observer que quand il y a une activité sur une page, par exemple, où il y a beaucoup de RIP. Mm-hmm. Les gens postent beaucoup de choses qui laissent porte à croire, par exemple, qu'une personne est décédée. Surtout si elle est décédée de mort violente, à ce moment-là, Facebook, tout de suite, va le mettre en profil commémoratif pour éviter qu'il y ait des problèmes là, par la suite. Des fois même, ça peut être les policiers qui en font la demande, mm-hmm. dans le cas, justement, là, de mort qu'on présume criminelle, puis tout ça. Fait que le processus, c'est beaucoup rodé avec les années.
Et comment, Nadia, d'après vous, on arrive à faire son deuil quand on a toujours... Parce que quand une personne... Ouais. Bon, vous parliez des frontières dans le monde des vivants, on va se rendre à un espace, là. Ouais. Aller au cimetière, aller voir l'urne, il y a comme un déplacement vers cette personne-là. Et on va parler un peu plus tard, là, justement, de certaines initiatives pour rester un petit peu vivant dans l'esprit de nos proches. Mais... Ouais. Comment on fait pour arriver à faire son deuil quand c'est constamment présent?
Ça pose, pour certaines personnes, ça pose un problème. Et c'est là, souvent, que là, Facebook a dû, c'est en 2017, mettre à jour un peu, je dirais, ses lignes directrices sur ce sujet-là. Parce que ça allait de soi que vous pouviez demander de rendre commémoratif un profil, mais il y a des gens pour qui ça ne les aide pas. Ils ont besoin mm-hmm. de faire leur deuil ailleurs que sur Facebook. Et il y en a d'autres, au contraire, pour qui la page commémorative devient comme un lieu de recueillement.
Ouais.
Alors, ils vont, quand il y a des occasions spéciales, ils vont faire des petites publications sur la page en disant « j'ai encore pensé à toi aujourd'hui, ça m'a fait du bien de me rappeler comment on avait eu un beau moment, etc. » Il y a des gens pour qui on fera pas tout notre processus de deuil de la même façon, pour qui c'est problématique et pour d'autres, qui au contraire, c'est une béquille, je dirais, pour passer à travers les différentes étapes du deuil. Et ce qu'on a constaté, là, c'est qu'il y avait des discussions à avoir au sein des familles quand oui. une personne, par exemple, décède subitement ou même est en fin de vie pour dire « mais qu'est-ce qu'on souhaite, nous, comme groupe, comme famille, pour cette personne-là? Est-ce qu'on veut que son profil reste là, que ça devienne un lieu de recueillement? » Ou est-ce qu'il y a une majorité de personnes dans notre famille qui disent « moi, je suis pas capable, ça va trop me rappeler sa présence, puis je vais comme avoir de la difficulté à faire mon deuil. » Fait que là, on a donc commencé à suggérer que les gens aient ces conversations-là dans leur famille pour décider ce qui devait être fait avec un profil. Et pour être plus proactif, vous savez que vous pouvez aller témoigner de ce que vous souhaitez mmh. faire avec votre profil, enregistrer vos préférences dans votre compte sur Facebook et comme ça dire, ben moi, par exemple, je lègue mon compte à telle personne dans mm-hmm. mon entourage qui pourra le rendre commémoratif, peut-être même répondre aux messages de gens qui auraient des questions sur mon décès, sur ce qui s'est passé. Fait que là, c'est un autre rôle, hein, celui qu'on appelait des médiateurs de la mort, oui. qui devient tout d'un coup repris par la famille, les proches d'une personne décédée. Mais là, on met donc chez Facebook des mécanismes pour vous permettre de gérer ça de façon personnelle. Comme vous feriez un testament, vous allez léguer le compte ou décider avant votre décès que vous voulez que ça soit désactivé, ce compte-là, à votre mort.
J'ai écouté une série balado sur la plateforme audio de Radio-Canada sur nos traces. Oui. La mort à l'ère numérique, et il y avait une mère comme ça qui répondait sur le compte de son fils. Et autant elle a dit que ça l'a aidé à garder le lien qu'au début, il y a certains jeunes qui ont été traumatisés parce que tout à coup, ils voyaient que leur message qu'il avait envoyé à son fils par souci de se réconforter avait été vu, que quelqu'un répondait.
Oui. Ça, c'est vraiment dans la façon de le faire aussi. Mm-hmm. Je sais que il y a des fois des gens comme ça qui reprennent le compte puis qui omettent là, d'expliquer ces petites choses-là. Là, ça peut être un peu étrange. Hein? Ça peut donner l'impression d'un compte hanté. Quand on a commencé à parler de ce sujet-là, les premières fois, je pense que j'en ai parlé à la radio, c'était peut-être vers 2017-2018. Et on avait eu des cas comme ça. Je me rappelle, je crois que c'était à l'émission de Catherine Perrin à l'époque à Radio-Canada. Et mm-hmm. il y a une mère qui était là pour nous parler justement de l'effet, dans son cas, vraiment, je dirais, de l'effet bénéfique que le compte avait eu. Et il y avait d'autres personnes qui témoignaient, qui disaient que pour le même compte, ça avait pu être un peu étrange de voir que quelqu'un, justement, répondait à leurs messages en privé, etc. Les gens avaient un petit peu de difficulté à s'habituer à ces nouveaux usages-là, là, puis à comprendre un peu comment ça fonctionnait. Puis Dieu se sait si la fiction ne nous a pas aidés dans ce sens-là, parce qu'il y a tellement mm-hmm. eu de fiction sur des comptes littéralement hantés par des personnes, etc., que ça a rendu un peu les gens un petit peu mêlés, je dirais, par rapport à tous ces nouveaux usages du deuil-là numérique, finalement.
Bien, il y a plusieurs émissions de la série Black Mirror.
Tout à fait, oui.
Qui parlent justement, entre autres, d'une dame qui a téléchargé un petit peu toutes les conversations de la personne décédée pour le en faire un algorithme avec qui elle pouvait converser.
Oui, ben ça, oui, ça, c'est en fait, c'est Eugenia Cuida qui a fait ça avec ce qui s'appelle, ça c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui a fait ça, c'est mm-hmm. la compagnie Replica.ai qui a été fondée en 2016. C'est pour ça qu'on a commencé à parler de ça vers 2017, là, je dirais, dans le milieu universitaire, puis dans les gens qui faisaient de la recherche sur ce sujet-là. Et Eugenia Cuida, son amie Romane Marzunko, mm-hmm. était décédée et elle voulait continuer à avoir des conversations avec lui. Elle a donc pris tous les messages puis elle a passé une intelligence artificielle dans ça pour continuer à parler avec lui. Mais là, dernièrement, quand j'étais dans mes soirs de thèse puis je revenais sur ce passage-là, je me disais, aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a, quand on met l'intelligence artificielle à contribution pour ça, on peut se demander avec qui elle discute vraiment maintenant, mm-hmm. 5 ans plus tard. Est-ce qu'elle discute avec Romane ou avec une intelligence artificielle qui avait les données de Romane et qui a continué hein, de forger une identité qui est basée sur une archive numérique et non pas sur une évolution, l'évolution psychologique ouais. hein, d'une personne qui est en interaction dans le monde puis qui continue, hein, par ses différentes expériences, à évoluer. Et ça, je pense que c'est une question qui rejoint les questions d'éthique, mais c'est
absolument.
Une question qu'on doit se poser parce que on se berce dans l'illusion que le double numérique est finalement nous, mais nous sans corps et sans évolution, qu'est-ce que c'est?
Absolument.
On
va aller en musique, Nadia, avec une chanson bien de circonstance. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir.
Je voudrais être un ange et puis vivre au paradis. Là, tout le monde est heureux, il y fait beau à ce qu'on dit. J'aimerais faire le voyage un jour, ce qui m'inquiète un peu. Y a pas de ticket pour le retour du paradis tout bleu. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne, personne. Personne ne veut mourir. Mon oncle est un avare, il se meurt de privation. Il a une fortune en banque, il est riche à millions. Son docteur dit qu'il va mourir. Mon oncle dit, oh non, moi je me refuse à partir en laissant mes millions. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir. J'ai fait le rêve étrange que je bats. Je me suis trouvée toute seule au désert éternel. Je n'ai vu que Saint-Pierre à la porte avec les larmes aux yeux. Il m'a expliqué pourquoi il était si malheureux. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir. Non, personne, personne, personne ne veut mourir.
Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. De Petula Clark. Hey Nadia, c'est
ouais.
Personne ne veut mourir, c'est éternel cette peur-là.
Oui, ben c'est certain, puis c'est parce que je pense que dans le contexte justement du numérique, il y a une promesse qui émerge, c'est celle peut-être de vivre en ligne. On a parlé bien sûr de choses comme le téléchargement, de la conscience, etc. Mais là, avec les données, de plus, tu sais, avec le nombre, je dirais, le croissant, on parle de big data, les données qui sont amassées sur nous, on imagine maintenant qu'on pourrait apprendre ces données-là pour continuer à faire vivre finalement une présence en ligne qui nous représenterait. Fait que c'est un peu une promesse d'immortalité. D'ailleurs, parmi les compagnies, on parlait de Replica tout à l'heure, mm-hmm. .ai, mais il y a aussi une compagnie qui était en ligne qui s'appelle Eterni.me,
ouais.
Eterni.me, donc moi éternel, qui n'a pas encore un service clair. Puis souvent, je peux vous dire, j'en ai vu d'autres là, au cours depuis 2010, des compagnies mm-hmm. qui essayaient de faire ça. Et dans certains cas, pour des questions juridiques, devaient finalement fermer leur affaire parce que des gens qui demandaient jusqu'à des fois des dépôts de 25 000 $ dans certaines compagnies en disant « Nous, on se porte garant de ramasser tout votre patrimoine numérique et d'animer une présence pour vous après votre décès. » Et dans le cas d'Eterni.me, il y a une promesse qui ressemble un peu à ça. On pouvait s'inscrire jusqu'à tout récemment dans le format bêta de la proposition, mais j'ai pas réussi à voir encore quel type de montant vont être accolés à ça parce qu'évidemment, il faut donc qu'il y ait, un profit pour ces compagnies-là. Donc, comment est-ce qu'ils vont monétiser ça? On va vous vendre la promesse d'une vie éternelle en ligne, mais j'ai comme l'impression que ça ne sera pas gratuit. Hein? C'est comme Facebook, là. Facebook, on s'imagine toujours que c'est gratuit, mais on est, par nos données, on est le produit. On est le produit pour des annonceurs, finalement. Là, nos comportements sont scannés pour ça. Et dans ce cas-ci, ça pose beaucoup de questions. Quand je dis qu'est-ce qui reste de vous quand on vous anime, ça, c'est une question importante à voir parce que on a beaucoup cru, je dirais, à cette espèce d'humain que j'appelle datafié, hein, qui veut dire mise en données, finalement. Mais des fois, plus on fait de la recherche sur la question, plus on s'aperçoit que il y a des choses qui manquent à ça. Hein, les principes de base, quand je parlais tout à l'heure de interagir avec autrui pour construire son identité. Quand vous êtes seulement un double en données et que c'est l'intelligence artificielle qui décide comment vous allez évoluer, est-ce qu'on peut vraiment, à ce moment-ci, je dirais, de notre histoire technologique, dire « ça va être moi encore, ça va être autre chose » parce que sans la part... je pense à des poèmes, des fois même du 17e siècle, là, la part mortelle de soi, est-ce qu'on est encore soi? Ça, c'est la question qu'il faut se demander. Là, quand la part de la mort n'est plus là, quand on n'est plus comme, qu'on n'est plus contraint par une enveloppe charnelle, est-ce qu'on est encore ce qu'on prétend être au moment où on est vivant? Ça pose toutes ces questions-là.
Absolument.
Et ça pose des questions aussi en rapport avec la technologie parce que évidemment qu'on vise toujours les mêmes choses, hein, la richesse, l'éternité, etc. C'est pour ça qu'il y a des courants comme le transhumanisme qui interviennent aussi et qui veulent proposer des technologies pour ralentir ou arrêter le vieillissement corporel, tout ça, ou même justement garder des organes comme on l'a vu avec les services là, où on offre de cryogéniser.
Oui, on parlait souvent de ça en Walt Disney à l'époque qui s'était fait cryogéniser.
Il y en a qui l'ont vraiment fait, vous savez. Hein? Il y a des gens comme, je pense, FM 2030, qu'il se faisait appeler. C'est un ancien athlète olympique qui était dans le mouvement transhumaniste. Lui était ami avec Max Moore, qui a la compagnie, justement, aux États-Unis, qui propose les services de cryogénisation. Et lui et sa femme, qui s'appelle Natasha Vita Moore, sont des adeptes de ce qu'on appelle le transhumanisme. Et ce qu'ils proposent, c'est ben vous pouvez faire cryogéniser votre corps au complet ou juste votre tête. Et à ce moment-là, quand on aura la technologie disponible pour vous mettre dans un corps, par exemple, synthétique ou vous télécharger quelque part, on le fera. Fait que là, on voit toutes les ramifications qu'il y a autour de cette idée-là, que la technologie va servir éventuellement à créer une version synthétique de nous-mêmes pour qu'on continue d'exister. Là, on n'ose même pas imaginer, Chantal, les problèmes
que ça va causer. Puis j'entendais dans la série dont je parlais là, à Radio-Canada, un jeune comme ça qui a pris des dispositions justement dès qu'il meurt pour que rapidement son corps soit refroidi. Et lui, il fait du life logging. Donc, il enregistre toutes ses interactions sociales.
Oui, ça, c'est un phénomène qui existe depuis, je dirais, quasiment une vingtaine d'années. C'était fait à la mi-terme, comme on dit communément, le life logging. C'est la branche plus large de ce qu'on appelle le quantify self, qui est de se quantifier soi-même, hein, de tout analyser, ses intrants, ses extrants corporels, puis tout ce qu'on fait. Et il y a des gens, quand ils ont commencé avec ça, qui vraiment bloguaient ces choses-là. Dans le temps, moi, je blogue, ça fait 20 ans, ça va faire 20 ans en janvier que j'en blogue. Et puis, on voyait ça, là, des gens qui faisaient des états annuels de leurs interactions, puis de tout ce qui se passait. Mais encore là, Je veux dire, est-ce que, tu sais, les interactions que tu vas télécharger, de quoi elles sont représentatives? Mm-hmm. Je comprends la démarche. Cela dit, je trouve que c'est fort intéressant de télécharger ça, ne serait-ce que pour voir ce qui se passe. Mais c'est sûr que c'est pas une idée qui est neuve. Là, on a la capacité de calcul pour l'analyser parce qu'à cause des ordinateurs qui sont toujours plus puissants, on a plus de capacité à le faire. Puis c'est drôle parce que cette balado-là, justement, réunit des idées qui sont traitées comme depuis quasiment une dizaine d'années. C'est sur à peu près, je pense que c'est des jeunes de l'UQAM d'ailleurs qui l'ont fait, là. C'est ça, sur à peu près 4 épisodes, là. Puis, mais c'est vraiment, donc ce sont toutes des idées qui sont là, qui sont en développement dans certains cas. Dans d'autres cas, qui comme le life logging, c'est quelque chose qui a passé. Là, lui, le reprend avec le contexte actuel. Mm-hmm. Fait que là, on voit l'intérêt de tout ça, mais ça pose quand même la question quand même de l'immobilité de ces données-là, une fois qu'ils ont été captées, hein, du fait que qu'ils vont être animés par une présence qui n'est pas la personne elle-même. Ça reste toujours complet quand même comme question.
Nadia, au-delà de toutes les dérives potentielles, ouais. Il n'y a pas une partie, juste en terminant, de vanité dans tout ça, de vanité numérique, de ne pas être oublié, qui est éternelle depuis toujours, là?
Oui, tout à fait. Je veux dire, c'était des questions qu'on a toujours vues. Je veux dire, quand j'ai le premier texte que j'ai écrit là-dessus, là, qui suivait une conférence en 2018, c'était, je l'avais appelé justement vanité numérique sur les avatars post-mortels. Vanité au sens, bien sûr, de la vanité qui nous anime, mais aussi au sens de ces portraits qu'on faisait à la Renaissance où on mettait un crâne pour signifier la possibilité de la mort ou encore indiquer si une personne était décédée ou pas, si c'était post-mortem ou avant la mort. Fait qu'il y a, ces questions-là sont toujours là. Comment on se représente quand on est mort? Les photos qu'on prenait des morts, on est toujours en train de penser à ça. Nous, dans un prolongement après, qu'est-ce qui va arriver quand on sera plus là? Je pense que ça fait partie. Puis la technologie vient juste poser les questions avec des angles nouveaux. Mais notre nature demande pareil.
Nadia, ça a été fascinant de vous entendre. C'est extrêmement touffu comme réflexion. Votre blog, quel est-il?
J'ai deux blogs, c'est nadia.com et un qui s'appelle nadiaserayoko.com où je parle plus de ma vie universitaire.
Excellent, on suit ça avec grand intérêt. Nadia Serayoko sur les souvenirs et le deuil numérique. Merci.
Merci.
Ici Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission Au fil du temps avec Chantal Doré.
Ah, Jeannette Bertrand, en voilà une que l'on voudrait éternelle. Si vous souhaitez réécouter notre entretien avec la grande Jeannette Bertrand, c'est sur nos plateformes de balado-diffusion, donc canalm.vuesetvoix.com, également sur Spotify, Google Podcast et Apple Balado. C'est l'épisode du 21 décembre 2020. Et quant à Nadia Serayoko, qu'on vient tout juste d'entendre, nous l'avons reçue le 21 septembre dernier. En deuxième partie, nous recevons Jérémy Lapierre, un consultant sur le mentorat. Il est aussi coordonnateur du programme de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Et il est donc vraiment au carrefour entre deux générations, la génération mobile et des médecins plus âgés dont il coordonne l'aspect mentorat avec eux. Alors, on vous propose une petite chanson bien de circonstance, le médecin de campagne du Grand Sardou.
Il écoute des heures durant battre le cœur de ses patients. C'est un médecin de campagne. Cette femme si belle et si pâle qui dit qu'elle ne souffre pas, de quoi ne souffre-t-elle pas? Cet homme qui tremble et hésite. Je ne bois plus rien, vous savez, lui aussi ment tellement mal. Lui aussi ment tellement mal. Il mange dans un vieux bistrot, il respire un court instant, puis il passe voir Jocelyn. Nonaville, il va bien. Son chien vieillit, il fatigue. Nicole a beaucoup maigri. Il prend des chemins de terre. Il les a vus tous ou presque. Naître ou mourir, tous ou presque. Naître ou mourir, tous ou presque. Ce mardi-là, il va accoucher chez elle, Maria. Tous ses jours, ses nuits à courir. Ses heures difficiles et grises se sont enfuies au premier cri, aux pleurs de ce nouveau-né. Ses pleurs, ses cris de bébé. Qui donne un sens à toute sa vie, c'est un médecin de campagne. C'est un médecin de campagne. De campagne. C'est un médecin de campagne.
Le médecin de campagne de Sardou. Mon prochain invité, Jérémy Lapierre, en côtoie des médecins de campagne et des médecins de ville à titre de coordonnateur du service de mentorat de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Il est formateur, consultant et conférencier. Il travaille notamment avec l'approche Psychom développée par Guillaume Dulude que nous avons reçu à quelques reprises à l'émission. Et sa conférence s'appelle « Le mentorat orienté » au service de la nouvelle génération mobile. Bonjour, Jérémy.
Bonjour, Chantal.
Bien, d'abord, j'ai été assez fascinée là, de voir ce programme-là que vous mentorez, parce que dans lequel vous travaillez sur le mentorat, parce que vous êtes appelé à mentorer des gens beaucoup plus âgés que vous, si je comprends bien.
Mm-hmm, absolument. Oui, c'est un programme qui est assez fascinant, très ancré dans les bonnes pratiques du mentorat. Puis oui, de mon côté, ça me donne l'occasion de travailler avec un public intéressant qui est les médecins de famille au Québec. Donc, les mentors et les mentorés, absolument.
Parce que comment les personnes, justement, qui ont plus d'expérience, en principe, réagissent aux analyses et aux conseils de quelqu'un plus jeune qu'eux?
Oui, c'est une bonne question, hein, parce que moi, je m'apprête à avoir 30 ans, j'ai pas de cheveux blancs pour montrer mon expérience. Je dirais, les médecins, même les médecins plus âgés, plus expérimentés, les mentors, réagissent bien. Ça se fait essentiellement dans la mesure où je les écoute beaucoup, puis quand je donne un conseil, c'est vraiment sur mesure, en fonction de leur réalité, où est-ce qu'ils sont rendus. Puis je dirais que typiquement, là, après les avoir, chaque cohorte, chaque médecin, je les accompagne pendant un an. Puis habituellement, j'ai eu un feedback plutôt positif là, sur l'accompagnement puis les bénéfices qu'ils ont pu avoir.
En fait, ça porte sur quoi votre accompagnement? Parce que je sais qu'un médecin, il a toute la relation avec son patient, la communication avec son patient, et on n'a pas malheureusement, ils n'ont pas nécessairement toujours le temps de bien le faire. Donc, comment vous les accompagnez pour être des meilleurs communicateurs?
Bon, mais je dirais, je les accompagne essentiellement sur la portion accompagnement du mentorat, hein, parce que l'idée du programme de mentorat, c'est un programme qui est par les médecins, pour les médecins, puisque les médecins expérimentés ont tout ce bagage-là qu'ils souhaitent transmettre. Mais de temps en temps, il y a des défis qu'ils rencontrent sur la façon de le faire, la façon de transmettre ça avec leur mentoré. Des fois, c'est des défis là, de l'ordre de savoir quels sujets peuvent être abordés. Il y en a qui sont plus purement professionnels, quand c'est à parler d'assurance ou d'AMP ou de paperasse. Il y a d'autres qui sont plus d'ordre du soutien psychosocial, hein, comme de gérer l'anxiété, la conciliation, travail-famille. Donc, c'est quoi les sujets qui peuvent être abordés? Par quel bout on prend ça? Des fois aussi, pour un médecin expérimenté, souvent les médecins ont un profil qui est assez problem solver, assez performant, Puis des fois, ça prend du temps avant de faire cheminer un mentoré. Fait que là aussi, il peut y avoir un défi de ce côté-là.
Mais est-ce qu'ils arrivent à faire preuve d'humanité et de communication dans le peu de temps qu'ils ont? Est-ce qu'il y a des trucs pour réussir en peu de temps à démontrer à la personne qu'on est à l'écoute?
Je dirais oui. Puis, tu veux dire, hein, s'il y a des façons de faire là, pour que l'autre sente rapidement là, qu'on est à l'écoute?
Mm-hmm.
Bon, je dirais oui, il y a tout à fait là, des choses qui peuvent se faire. Je dirais carrément des habiletés, des stratégies de communication puis d'écoute. Puis c'est sûr que, hein, puis tu mentionnais mon implication dans Psycom, puis
oui.
Je te dirais que c'est mon occupation principale. Puis dans Psycom, au cœur là, de l'entreprise, il y a des stratégies puis des habiletés de communication. Fait que c'est sûr que cette expertise-là, cette méthode-là est beaucoup utile dans ce que je fais avec les médecins. Peut-être pour nommer un élément qui serait important, parce que tu poses la question pour mm-hmm. démontrer rapidement que l'écoute est là, je dirais il y a les reflets. Quand je dis les reflets, c'est vraiment à la méthode là, de Psycom, mm-hmm. développée par Guillaume Dulune. Ça, j'en fais faire hein, aux médecins des reflets, puis c'est challengeant, mais j'y prends là, dans les formations initiales, au début du programme de mentorat, je leur fais faire des reflets, puis des fois, c'est pas tout à fait au point, ça fait qu'il faut corriger le tir. C'est quelque chose qui se perfectionne comme un sport, les reflets.
Qu'est-ce qu'on entend par reflet, Jérémy?
OK. Un reflet, hein, ça sert vraiment à démontrer à l'autre qu'on a compris ce qu'il voulait dire.
Mm-hmm.
Puis un reflet, pour en donner la définition simple, c'est une reformulation de ce qu'on a compris que l'autre a voulu dire. Puis je mets l'accent sur ce que l'autre a voulu dire, au sens où des fois, souvent, par exemple, un mentor, donc un médecin mentor va voir plus large que ce que juste le médecin mentoré dit. Mais si on va au-delà de ce que la personne a voulu communiquer en avance, je te dirais, ça va aller trop vite. Fait que c'est ça là, qui est un reflet, une reformulation de ce que l'autre a voulu communiquer.
Donc, la clé est vraiment ici d'essayer de débusquer qu'est-ce qu'on a voulu dire, qu'on n'a peut-être pas dit de la bonne façon, mais être sûr d'aider la personne à mettre en mots quelle était son intention dans sa communication.
Bien, je dirais, le but, c'est peut-être pas de l'aider à mettre en mots, c'est surtout là, de faire l'entente, le deal officiel de « on est sur la même longueur d'onde, mm-hmm. oui, on se comprend pour de vrai, parfait ». Puis ça, quand on fait un reflet comme ça, puis que l'effet est réussi, ça va avoir un effet assez, je dirais, dopaminergique chez la personne qui parlait. Typiquement, ça va faire quelque chose comme « oui, exactement », puis mm-hmm. la personne va avoir envie là, d'en dire plus.
Et tu es également conférencier, et ça m'avait intéressé de savoir cette conférence-là qui parle le mentorat orienté au service de la nouvelle génération mobile.
Mm-hmm.
Donc, est-ce que leur utilisation de la technologie chez cette génération-là affecte leur façon de communiquer?
OK. Bon, c'est une bonne question. Cette conférence-là que tu mentionnes, je l'avais faite dans le cadre d'un congrès de l'ACFAS qui était à McGill là, cette année-là. L'ACFAS, c'est l'association de la francophonie, une association de recherche internationale, mais dans la francophonie.
Mm-hmm.
Puis, c'est ça, tu poses la question à savoir si la technologie module les interactions là, dans le mentorat, c'est ça?
Bien, en fait, cette génération mobile-là, donc moi j'entends jeunes,
okay.
est-ce que ça affecte leur façon de communiquer?
La technologie?
Oui. Comment toi tu les aides dans ça?
OK. Bien, je dirais, hein, pour ce qui est là, de cette conférence-là, qu'on dit la génération mobile, c'est beaucoup dans une optique où la technologie ouvre des portes, ouvre un monde de possibilités. C'est comme parfait, ce qui est une bonne chose en soi, mais ça vient avec un échange où il faut être plus ajusté pour faire des choix qui sont éclairés, qui sont bien orientés. Puis je dirais que c'est dans cette optique-là, de cette conférence-là, où le mentorat est une bonne option pour accompagner un jeune, pour l'orienter dans cet univers de possibilités qui est tout à fait ouvert là, par la technologie.
Est-ce que tu peux me donner un exemple concrètement, juste pour que nos éditeurs saisissent bien là, comment ça s'applique?
Comment ça s'applique, l'orientation des jeunes, ou comment est-ce que quoi s'applique?
Bien, parle-nous de ton expertise. Parce que ta conférence parle au service de la génération mobile, donc comment tu es à leur service?
OK. Bien, je dirais que l'idée, c'est d'être à leur service dans les aidant dans ce processus-là d'orientation-là, au sens où le fait d'avoir toutes ces possibilités-là ouvertes en termes là, de lieux d'études ou de le marché du travail qui se mondialise puis qui se fait à distance, puis les cours aussi. Et donc, l'idée pour être à leur service, c'est de créer un espace pour faire des choix puis de fixer des objectifs dans ce magma de possibilités, de fixer des objectifs qui vont être, je dirais, en phase avec eux. Puis ça c'est la portion là, qui est plus challengeant, puis je dirais que c'est vrai là, pour les jeunes, puis je dirais même, là, pour être un peu plus précis, les milléniaux,
oui.
De prendre le temps de créer un espace pour dire, bon, là, toi, de où tu pars, où est-ce que tu veux aller, puis parfait, on a un million de possibilités, mais ça prend, pour fixer des objectifs puis designer un parcours qui a du sens, ça ne peut pas juste être d'essayer les possibilités ad vitam aeternam, puis on le voit hein, dans les milieux scolaires, c'est fréquent que des jeunes, j'ose dire des milléniaux, puis je m'inclus là-dedans,
mm-hmm.
des jeunes vont changer de parcours à la recherche du signe divin de « oh wow, ça y est, c'est ma voie », mais c'est pas vraiment comme ça que ça arrive, ça se fait avec, en s'investissant, puis en prenant un temps de réflexion, puis je pense que l'accompagnement, puis le mentorat est un espace où on peut avoir une réflexion comme ça. Et donc, le mentorat est au service de la génération mobile en créant cet espace-là pour designer des objectifs et faire un processus de choix qui va être porteur.
OK, parce que ce que j'entends aussi, c'est que la technologie a peut-être emmené un accès encore plus grand à une multitude de choix, puis j'imagine que ça peut causer peut-être plus d'anxiété.
Exactement. Puis dans cette conférence-là, je parle beaucoup là, des processus de choix qui sont soit en maximizing ou en satisfying.
Fait que explique-nous ça, là. Il y a des termes que je découvre.
Oui. C'est des processus de choix qui sont faits dans une optique soit de maximizing, ou on pourrait dire en français de maximisation, ou de satisfying, qui serait comme de satisfaction. Fait que dans du maximizing, c'est une logique de choix. Fait que là, on parle ici de processus de choix. Fait que le maximizing, c'est un processus de choix où la bonne réponse est dans l'option. Où donc, on va comparer les options puis faire un espèce de calcul des plus et des moins pour voir qu'est-ce qui est l'option la plus payante. Fait que dans le maximizing, la bonne réponse est dans l'option. Par opposition au satisfying, où là, la bonne réponse va être dans la correspondance entre une option puis soi-même, en fonction des objectifs, en fonction d'une bonne connaissance de soi. Mais là, la bonne connaissance de soi, c'est ça qui est le défi, puis qui typiquement va bien se faire si ça se fait dans un processus d'accompagnement comme en mentorat, notamment si on a un mentor qui est capable d'être à l'écoute, puis par exemple de faire des reflets. Et donc, pour gérer le magma de possibilités, l'idée, c'est d'aller le plus possible dans un processus de choix, un processus décisionnel qui est satisfying, où on va faire une correspondance entre soi personnellement, une bonne connaissance de soi, où est-ce qu'on veut aller, et là, le bon choix de programme d'études ou de d'orientation professionnelle, par opposition au maximizing, où on va juste comparer les options, essayer, puis faire un calcul plus et plus moins, indépendamment de soi-même.
Donc, on revient finalement à la bonne vieille tablette où on faisait des plus ou des moins, mais avec la science à notre service.
Bien, je dirais, c'est ça, là, les plus et les moins dans le maximizing où il n'y aura pas là, de correspondance à soi. Fait que l'idée, c'est de pas juste faire des plus et des moins, mais faire l'adéquation entre soi-même et la direction qu'on veut choisir. Okay.
Merci beaucoup, Jérémy Lapierre, d'avoir été avec nous. Donc, on peut te retrouver chez Psycom ou encore comme conférencier chez Formatou. Merci.
Merci.
Au plaisir.
Elle avait 18 ans et moi j'en avais 16. Elle me trouvait trop jeune et pour la mettre à l'aise, Je lui ai dit, moi j'aime bien les vieilles. J'aime bien les vieilles maisons, j'aime bien les vieilles bouteilles. Moi j'aime bien les vieilles. J'aime bien les vieilles bagnoles, les clous, les rossignols. Moi j'aime bien les vieilles. Plus je les regarde, plus j'aime les vieilles guimbardes. Moi j'aime bien les vieilles. Quand il est un peu sec, je me régale avec le croissant de la veille. C'était une terminale, moi j'étais en troisième. Et alors où est le mal? Quel est le problème? Moi j'aime bien les vieilles. Je vois pas où est le drame, je rattraperai le programme. Moi j'aime bien les vieilles. La jeune génération, je la trouve tartignole. Je préfère les occasions malgré les heures de vol. Tu en as au compteur, mais tu es bien conservé. Je suis près du radiateur si tu cherches à trouver. Je te tire mon chapeau et je lève ma coupe. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Pour avoir l'air plus vieux, je lui ai demandé du feu. J'ai tiré une bouffée, j'ai failli m'étouffer. Je lui ai dit, moi j'aime bien les vieilles. J'aime bien les vieilles chignoles, les clous, les rossignols. Moi j'aime bien les vieilles. Tout le monde préfère le neuf plutôt que les vieilles teuf-teuf. Moi je suis pas pareil. Moi j'aime bien les vieilles. Moi j'aime bien les vieilles. Moi j'aime bien les vieilles. Moi j'aime bien les vieilles.
C'était Les Vieilles de Thomas Fersen. Thomas Fersen est sans contredit l'un de mes antidotes favoris pour les jours gris. Et Dieu sait qu'il y en a en novembre, alors je vous suggère plusieurs de ses pièces musicales. Du 7 au 13 novembre, c'est la semaine des proches aidants. Et l'appui qu'on a déjà reçu à l'émission L'appui pour les proches aidants a concocté plusieurs activités, dont entre autres le 4 novembre, une conférence qui s'appelle « Comment aider un proche malade sans le devenir soi-même ». Et le 10 novembre prochain, il y aura un événement virtuel qui s'appelle « À distance, on reste proche ». Et l'événement réunit entre autres Marie-Claude Barrette, Marina Orsini et le slameur Mathieu Lippé. Alors, je vous invite à découvrir cette programmation sur le site Facebook de l'Appui. J'ai également vu passer la création d'un tout nouveau village intergénérationnel qui était en fait... baptisé là, ce mois-ci à Clermont-Ferrand en France. Ça s'appelle le Clos des Vignes et ça comprend 30 appartements destinés aux personnes âgées et 10 à des familles ou à des étudiants. Et ce contact quotidien est bénéfique autant pour les jeunes qui parfois sont des étudiants qui sont éloignés de leur famille que pour les plus âgés qui vivaient autrefois de la solitude. Ils ont entre autres accès à un jardin partagé et à une animatrice qui renforce les liens de solidarité entre les résidents. Je crois que c'est un modèle qui est appelé à se répéter. Il y a de plus en plus d'initiatives qui se passent partout sur la planète et ici également au Québec. Et si ce modèle vous intéresse, je vous invite à écouter notre émission du 29 juin qui raconte l'histoire de 20 amis de longue date qui ont lancé une coopérative d'habitation ainsi qu'une PME. C'est vraiment intéressant d'entendre comment ils ont réussi à faire fructifier les talents et les forces de chacun pour créer un très, très beau projet de vie. Sur ce, on va en musique, tant qu'à rester dans des chansons ensoleillées. Voce Abuzu, vous allez reconnaître cette pièce, c'est de chanter par Pauline Croz.
Você abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, tirou partido de mim, abusou, que me perdoe,
mas eu suis seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe. Dire comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu.
Bossé à Bouzo, tiro parti de demi. Tiro parti de demine à Bouzo. Tiro parti de demine à Bouzo. Qui m'y perdonne?
Mais l'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace. Dire comment peut-on vivre sans lui, sous quelle étoile, dans quel pays. Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu.
Bossé à Bouzo, tiro parti de demine à Bouzo. Tiro parti de demine à Bouzo. Tiro parti de demine à Bouzo.
Mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté et d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace. Dire est-ce que je dois montrer les dents, est-ce que je dois baisser les bras. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu.
Bossé à Bouzo, tiro parti de demine à Bouzo.
Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche. Un oiseau d'un peu de chasse et de pêche. Un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche. L'oiseau d'aller plus haut.
Bocce à Bouzo de Pauline Croz. Vous avez sûrement entendu Fait comme l'oiseau de Fugain. Mais en fait, Fugain s'est inspiré d'une chanson sud-américaine. Comme quoi, on ne réinvente rien, on ne fait que remettre au goût du jour et faire une œuvre d'art avec notre propre interprétation. Moi, j'ai été fascinée par les propos de Nadia Serra-Yoko et je me disais en l'écoutant, d'une certaine façon, j'aimerais bien pouvoir aller visiter ma grand-mère décédée dans sa cuisine, surtout entre autres pour y soutirer sa recette de carré aux dattes. Si vous voulez poursuivre cette réflexion vraiment fascinante, mais j'avoue un peu épeurante là, sur les dérives de la vanité du numérique et du deuil numérique, vous pouvez joindre Nadia Serra-Yoko sur son site Internet, donc nadiaserrayoko2c.com ou plus simplement chez nadia.com. Merci également à Jérémy Lapierre, conférencier, consultant et formateur qu'on peut rejoindre sur le site de Formatou ou encore chez psychom.com. Un grand merci à nos collaborateurs de notre dynamique équipe. On retrouve avec plaisir un Maurice Bolduc à la régie reposé de 3 semaines de vacances. Merci également à Catherine Bourderon à la recherche et à Louis Garon, chef d'antenne. La semaine prochaine, on se penche sur les réflexions d'un directeur d'école pour injecter une dose de persévérance scolaire au Québec. On a parlé il y a quelque temps avec quelqu'un qui nous parlait de la pénurie de main-d'œuvre et qui disait que la persévérance scolaire, c'était un des gros défis qu'aura le Québec. Alors David Bowles a écrit un livre sur le sujet, il viendra nous en parler. Je suis entre autres très curieuse de l'entendre sur le nouveau programme de citoyenneté là, qui a remplacé nos anciens cours là, de morale et de religion d'antan. Et nous allons poursuivre notre exploration du mois de la mort avec l'initiatrice du Salon de la mort, Poussadi Vanni. Sur ce, mes chers, puisque nous sommes encore tous vivants au moment où on se parle, je vous souhaite de profiter de chaque moment qui vous est donné avec les êtres que vous aimez et de multiplier les interactions, qu'elles soient enregistrées ou non. Profitez-en pour nous réécouter en balado, aller prendre des grandes marches pendant qu'il fait encore un beau temps d'automne. Alors à tous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!